que les années étudiantes sont vraiment les meilleures?
J'ai beaucoup d'importance à mon physique. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de superficiel?
La première fois, c'est vraiment si important.
Comment tu gères, toi, la pression sociale?
C'est vraiment si grave.
Je suis une fille et j'ai pas envie d'avoir d'enfants.
J'ai toujours pas mon bac.
Est-ce que c'est normal de toujours pas savoir ce que le. Est-ce que jamais été en couple? Est-ce que c'est normal?
Je veux pas avoir d'enfants.
Est-ce que c'est obligatoire d'avoir
la pression?
C'est si grave que ça parfois. C'est vraiment si important que c'est normal.
Chut.
Eh bah, viens, on s'assoit et on papote.
Bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Nous sommes le vendredi 17 mars, il est 18h et vous écoutez On Papote, le bimensuel préféré de votre podcasteur préféré. Une émission animée par Sarah et Anaëlle, moi-même, ça ne change pas. Mais alors, comment va ma co-animatrice?
Mais toujours au top, ravie d'être là avec vous, chers auditeurs, comme toutes les deux semaines.
C'est parfait tout ça. Sarah, dis-nous tout, quel est le programme de ce soir?
Ce soir, nous sommes avec Lou et Aélia, avec qui nous allons discuter nourriture et le rapport que nous avons avec cette dernière. Troubles du comportement alimentaire, pression et même angoisse, voilà ce que nous allons évoquer dans ce nouvel épisode de On Papote.
Comme à notre habitude, nous allons commencer avec un petit tour de table afin que tout le monde puisse se présenter avec son prénom, son âge et son rapport à la nourriture en quelque sorte.
Bonjour à tous, je m'appelle Lou, j'ai 18 ans et je dirais que mon rapport à la nourriture, on s'aime pas trop lui et moi. C'est un peu un suis-moi je te fuis-moi je te suis. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.
Bonjour, moi c'est Aélia, du coup j'ai 20 ans et mon rapport à la nourriture il est très conflictuel depuis très longtemps. Voilà, je pense que ça résume un peu tout.
Sarah, 18 ans, vous nous connaissez plutôt bien maintenant. Je dirais que, alors profondément, je suis quelqu'un qui aime manger.
Moi, Anaëlle, 20 ans, moi aussi j'ai des petites phases, on va dire, de boulimie, un truc comme ça. Ça a été un peu compliqué au niveau lycée, mais ça je l'expliquerai plus tard dans l'émission.
Alors en première partie on va évoquer plutôt comment les soucis quant à l'alimentation se sont créés, enfin ont émergé dans votre vie. Donc tout d'abord, depuis quand est-ce que vous trouvez que votre relation à l'alimentation elle a changé? À partir de quand en fait il y a eu une espèce de, je sais pas, ça a vrillé entre guillemets?
Pour ma part je sais que ça a commencé à vriller, je pense. Physiquement avec la nourriture à partir du milieu collège, fin collège même, et après mon rapport à mon corps n'a pas aidé, c'est-à-dire que je pense que je suis vraiment rentrée en conflit avec moi-même et l'aspect de manger et de grossir depuis que j'ai, je dirais, 8-9 ans, fin primaire, ouais, à peu près.
En fait moi il n'y a jamais eu d'aspect physique. Je dirais que tout est un peu dans le psychologique, dans le mental, tout est à l'intérieur. C'est pour ça que des fois, quand j'en parle, les gens me jugent un peu parce qu'ils me disent non. En fait, ils comprennent pas trop. Et je dirais que tout ça, on s'est jamais vraiment aimé du coup la nourriture et moi depuis un peu tout le temps. Mais je dirais que ça a vraiment fait écho dans ma tête peut-être il y a un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Donc j'avais 16, 17 ans.
Moi, du coup, j'ai un peu eu une relation différente quand je suis arrivée au lycée parce que j'ai un peu eu cette pression, mais plutôt pression au niveau des garçons. Et en fait, je pense que ça remonte un peu plus, même qu'au lycée, plus ça remonte plus vers le collège, fin primaire, début collège, parce que ma mère m'a fait prendre conscience, entre guillemets, que j'avais pris du poids. Et en fait, on me le répétait assez souvent. Donc je pense que ça revient, comme tu l'as dit, mentalement en fait. C'est une pression qu'on se met et la pression que l'extérieur nous met aussi. Donc c'est là qu'en fait, collège, lycée, vraiment mon rapport à la nourriture, elle a vraiment changé. Il y a vraiment une différence sur ces deux points-là. Du coup, là, on a parlé de votre rapport à votre relation avec la nourriture. Et on voulait savoir, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
Je pense que oui, c'est le lycée. En fait, peut-être plus à partir de la première... tout a commencé à aller un peu mal pour moi et vraiment tout, il n'y a rien qui allait, la famille, les cours, les amis, rien. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là en fait, que la nourriture aussi n'a plus commencé à aller. Alors autant avant je m'en fichais, autant ouais, quand ça a commencé à plus aller, tout couler, la nourriture est arrivée pour ne rien arranger du tout.
Moi de mon côté, je sais que y a beaucoup de choses dans le sens où fin primaire, c'est vraiment le début de... Les enfants qui testent vraiment la méchanceté entre eux et sans forcément s'en rendre compte. En fait, on se retrouve à être amis avec des personnes qui ne nous veulent pas forcément que du bien. Donc, il y a eu, quand je suis arrivée dans une nouvelle école en CE2, donc j'ai commencé à subir un harcèlement. De plus, mon beau-père qui arrive à peu près à ce moment-là, mon ancien beau-père, est quelqu'un qui était très complexé sur son poids. C'est un ancien obèse dû à ses médicaments contre l'asthme et tout. Des années 90, ça rendait vraiment extrêmement gros, en fait, obèse maladif. Et du coup, il avait un réel complexe, en fait, par rapport au poids. Donc c'est des pesées tous les jours, etc. C'était on vérifiait les calories et tout. Sauf que quand on associe ça à une mère qui a toujours été très très fine, avec une famille qui a toujours été très très fine, on n'a pas vraiment de repères. Et du coup, on se voit plus gros qu'on ne l'est. Et au bout d'un moment, on se dit, bah, quitte à être gros, autant que je devienne vraiment le plus gros des gros. Et du coup, ouais, la nourriture, ça a été un peu un refuge dans ce capharnaüm de on me jugeait par rapport à mon poids. Du coup, j'ai décidé de décider de mon poids moi-même. Sauf que bah, maigrir à 10 ans, c'est pas facile. Alors que manger des gâteaux et grossir, ça l'est beaucoup plus.
Bah moi, je l'avais déjà évoqué dans ma réponse précédente, mais c'est surtout, comme j'ai dit, le collège où ben, je me suis rendu compte que du coup, je mangeais beaucoup. Et après, au lycée, par contre, c'était l'inverse, parce que du coup, je suis arrivée dans une classe et bah, mes fréquentations ont fait que j'avais des amis qui parlaient de leur poids ou qui avaient un peu des complexes ou des problèmes familiaux. Et du coup, bah, moi, dans ces amis-là, j'avais un pote garçon. Qu'au final, bah, je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui. L'amour fait faire des conneries. Oui. Il m'a dit un jour que une fille idéale a un tour de poitrine idéal.
Ah, je sens venir là, je sens la connerie.
Les hommes tous les mêmes.
Je sais plus c'était quoi le tour idéal, mais il m'a dit ouais, ça va, toi, t'es dans la norme, dans ma norme et tout. Et après, il m'avait dit ouais. Une meuf, c'est pas censé faire en dessous de 45 kilos. Du coup, j'étais en mode, putain, genre, est-ce que je fais 45 kilos? Est-ce que je dois faire moins de 45 kilos? Et du coup, vraiment, tous les jours, bah, en fait, je me forçais à pas manger. Genre, avec ma famille, je mangeais, mais quand j'allais en cours, donc, genre, moi, j'étais en Martinique, donc mes cours commençaient à 7 heures. Donc, c'est-à-dire qu'à 5 heures du matin, j'étais debout. Je prenais pas de petit-déj. Et en fait, je m'achetais un truc à manger, genre un donut ou un truc comme ça. Et j'attendais de voir jusqu'où je pouvais tenir pour genre savoir est-ce jusqu'où mon corps peut tenir sans manger.
J'ai fait exactement la même chose.
Ouais.
Okay. Je fais encore la même chose.
Des fois, ça m'arrive. Et je l'ai fait pendant genre au moins 3 ans, à savoir genre pourquoi, enfin genre essayer de voir jusqu'où. Et vraiment, pas au point du malaise, mais vraiment au point où t'arrives plus à tenir.
En fait, ouais, t'as trop mal au ventre et que c'est ouais, des crampes, quoi.
C'est ça, et du coup, t'es là et tu vois les autres manger, t'es en mode, non, faut attendre, faut voir jusqu'où tu peux tenir. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste horrible de penser comme ça.
Bah, et de s'infliger ça, surtout.
Bah oui.
Et... Pour les autres, en plus.
Bah oui, pour les autres. Pour un garçon qui ne m'a pas, qui ne me regardait pas.
Aïe, 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 aïe.
Ça, c'est encore super. Mais ouais, donc, un peu compliqué.
On voulait savoir, du coup, je vais faire 2 questions en une, si vous avez souffert, donc, bah... Probablement oui, de troubles du comportement alimentaire. Et en fait, comment ça se caractérisait? Enfin, votre quotidien, on va dire, à quoi ça ressemblait en fait avec ça?
Bah alors, moi, je n'ai jamais été diagnostiquée de quoi que ce soit, donc je ne vais pas commencer à faire un auto-diagnostic. Mais je pense que je pense hein, en avoir des troubles. Genre, je ne peux pas avoir une relation saine avec la nourriture et agir comme j'agis. J'ai fait plein de trucs débiles d'ailleurs. À tous ceux qui nous écoutent, ne faites jamais ça, mais j'ai fait le fameux régime des pommes, si jamais c'est vous connaissez.
C'est un régime horrible star.
En fait, pendant une semaine, je mangeais, enfin même pendant plus, je mangeais genre une pomme par jour, mais c'était mon seul repas.
C'est le seul repas ?
Mon angoisse.
Oh, c'est horrible.
Oui. Ou alors, il m'est arrivé aussi, bah, pendant toujours ma terminale, comme toi, moi, je ne mangeais rien. Alors si je rentrais chez moi, parce que j'étais affamée, je mangeais un petit écolier pour tenir. Et j'ai fait ça pendant peut-être 2 semaines et à un point, comme t'as dit, où moi, mes jambes, elles voulaient plus avancer. J'étais en cours, genre j'avais des poids au mollet qui ça voulait plus avancer.
Et bon, t'as plus d'énergie, ouais.
Ben ouais, oui. En parlant de pommes, ça s'est conclu par un tombage dans les pommes en cours de physique.
Oh, la transition est belle, hein.
En cours c'est de beau, physique. Et voilà, du coup, ça s'est caractérisé par je vais tester des trucs débiles pour voir ce que mon corps est capable de faire. Voilà, il n'est pas capable de grand chose, mais voilà, parce que en plus j'avais un bon poids, j'étais à 50 kilos, j'ai fait 50 kilos pendant peut-être 2-3 ans. Là, par exemple, là je fais 54, donc j'ai pris 4 kilos peut-être en 6 mois pour moi, mais c'est moi, encore une fois, je me compare à personne, c'est le drame de ma vie. Ah ouais, je suis là en mode ouais, 4 non, kilos, le drame de ma vie et tout. Donc ouais. Voilà.
Moi personnellement, j'ai été du coup diagnostiquée récemment. Sauf que ça fait bah, déjà plusieurs années que j'en souffre. Sauf que bah, avant, déjà, c'était moins médiatisé. J'ai découvert sur TikTok ce que j'avais. J'ai été voir une psychologue et j'ai fait « Regardez !» Elle a fait « Oui, c'est ça !» Du coup, moi, je souffre de troubles du comportement alimentaire compulsif nommé hyperphagie. Donc, en gros, c'est quand tu manges par crise. Sauf que c'est très spécifique. C'est un peu comme du somnambulisme dans le sens où t'as pas conscience que tu manges. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me réaliser en fait que j'avais mangé genre plein de trucs en quelques peu de temps à me remplir. En fait, on se remplit. C'est comme si on ressentait un vide et qu'on se remplit avec de la nourriture. Le seul truc, c'est que le vide, il est mental. Et tu te remplis avec de la nourriture qui est physique, c'est pas compatible. Du coup, évidemment, ça emmène toutes sortes de regrets et d'autres troubles compulsifs. La chance que j'ai, entre guillemets, c'est que je suis jamais tombée dans la boulimie et dans le fait de me faire vomir, etc. Par contre, du coup, ça peut m'arriver après une crise hyperphagie, je mange pas pendant 2 jours, quoi. Okay. Parce que je regrette d'avoir mangé tout ce que j'ai mangé. Et... j'ai assez de calories pour tenir 2 jours, dans le sens où tout ce que je mange, ça peut être très aléatoire. Je peux manger, généralement, ça a des trucs gras, des trucs très sucrés, donc qui font prendre non pas de l'énergie, mais de la graisse. Et du coup, maintenant, je le suis beaucoup moins. Mais avant, j'étais très complexée par mon poids et du coup, je mangeais plus. Et ma mère, elle n'a jamais compris, jusqu'à ce que je lui explique et que la psy lui explique que... du coup, ces troubles compulsifs, donc l'hyperphagie, c'est pas lié à mon envie de grignoter. Ma mère pensait que je grignotais selon mes émotions, donc c'est un peu ça. Mais ma mère m'a toujours engueulée parce que je piquais dans les placards, etc. Alors que je mange normal à table. Enfin, je mange pas plus ou pas moins qu'elle. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis fait engueuler. Ma mère a fermé les placards à clé, elle avait trouvé des systèmes et tout. Sauf que le problème, c'est que à 16 ans, tu peux facilement aller à Intermarché et acheter un truc. Et donc, je faisais des grosses crises d'hyperphagie et c'est même nocif niveau argent parce que je peux faire la même chose sur Uber Eats aujourd'hui, tu vois. Et c'est du 40 balles qui part sur Uber Eats, c'est énorme et je mange tout en 1 heure. Mmh. Et après, tu regrettes et t'es là, 40 euros quoi. Mmh. 40 euros la santé mentale, plus les séances de psy, c'est pas cool.
Moi, je trouve justement, on parle pas assez de la nourriture.
Mais c'est pour ça qu'on fait ce podcast.
Ouais, justement, c'est aussi pour ça que je suis là, ouais. Parce que je me dis, la nourriture, c'est autant... Alors, peut-être ceux qui ont une addiction à l'alcool et à la drogue, ils ne penseront pas pareil que moi, mais la drogue et l'alcool, c'est pas indispensable pour vivre. Si tu prends pas de cigarette, tu meurs pas. La nourriture, si. Et en fait, ouais. Je trouve ça tellement affreux que certains aient des relations comme ça tellement néfastes avec la nourriture, alors que c'est ce qui leur permet de rester en vie. Ouais. Et je trouve que justement, comme tu l'as dit, c'est tabou dans la société. Donc ce podcast, il est trop bien pour enfin en parler et que... Peut-être les gens qui vont nous écouter vont s'identifier à nous et vont se dire « Ah ok, je suis pas seule. Ah ok, elles en parlent. Ok, je vais en parler aussi. »
Mais du coup, par rapport à ça, on se demandait si votre entourage, du coup, il avait été impacté de près ou de loin face à ce changement dans l'alimentation et ce rapport un peu toxique.
Alors, mon entourage, si vous m'écoutez, vous venez d'apprendre quelque chose. mon entourage ne le sait pas. Okay. En fait, il le sait pas. Je pense qu'ils sont aveugles, mais en tout cas, on n'en a jamais parlé. Je leur ai jamais rien dit sur tout ce qui a pu se passer pour moi depuis la première. Donc, en fait, j'ai envie de dire oui et non, parce que du coup, ils savent pas, puisque je leur en ai jamais parlé. Je me suis un peu enfermée dans ma propre bulle. Et du coup, j'ai vécu ça toute seule. Et je pense que c'était encore beaucoup plus compliqué. J'avais personne sur qui compter. Et donc, mon entourage, est-ce qu'il a été impacté? Non. Moi, du coup, j'étais beaucoup plus impactée moi-même, mais... Après, si, je demandais tout le temps à ma mère ou à mes potes... Enfin, je leur disais, regarde, je suis grosse. Alors que, j'étais pas grosse. Mes cuisses, par exemple, elles sont normales. Elles sont pas énormes, mais elles sont normales. Et ma mère, elle me disait, oh, t'as... En compliment, oh, t'as vraiment une taille de coton-tige, des cuisses toutes fines et tout. Mmh. Et moi, j'étais en mode, non, maman, c'est des poteaux. Genre, moi, je les voyais comme des troncs d'arbres. Et du coup, je me suis fait engueuler plein de fois parce que... arrête de dire que t'es grosse, pour les personnes qui sont vraiment en obésité, c'est pas sympa et tout. Ce qui fait que maintenant, j'ose plus, envers mes potes ou ma famille, me plaindre de mon corps. Hein. Je ne me compare à personne, évidemment. J'ose plus dire que je me trouve grosse et que je ressens un mal-être par rapport à mon poids, puisque je sais très bien que si je le dis, je vais me faire engueuler, je vais me faire gronder, parce que je suis normale. Je suis pas fine, je suis pas grosse, je suis normale. Donc, du coup, je me suis un peu enfermée sur moi-même et j'ose plus rien dire parce que, vu que d'apparence, je suis normale et qu'intérieurement, je me trouve énorme, je peux plus rien dire.
Moi, concernant mon entourage, est-ce qu'ils savent? Je ne sais pas. ma mère, oui, parce que c'est elle qui a commencé à m'emmener voir une nutritionniste sur les conseils de mon ancien beau-père. Quelle bonne idée. Non. Mon entourage, non, ils n'ont pas souffert, ils ne savaient pas. Ils ne savaient juste pas. Je me suis juste fait engueuler tous les quatre matins parce que je mangeais les gâteaux de mes sœurs pour le goûter. Voilà. Non, en vrai, mon entourage, il n'a vraiment pas eu trop d'impact. Je pense que j'ai été plus dure sur certains points que la nourriture parce que chez moi, ma mère me voyait manger normal à chaque repas. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était les grosses crises que j'avais derrière. Et que à ce moment-là, je mangeais tous mes repas. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à ce moment-là, si. Et non, ils n'ont pas été si impactés que ça. Enfin, pour la petite anecdote, je vis seule avec ma mère et mes deux petites sœurs qui sont mes demi-sœurs. Mon beau-père n'est plus à la maison. Merci. Beaucoup. Mais ma mère a réussi à me faire complexer sur mon poids sans s'en rendre compte. C'était vraiment pas ma viande de sa part, mais c'est des petites piques ou autres qui font pas plaisir. Surtout que je sais qu'elle s'en veut beaucoup par rapport à mon ancien beau-père, de ce qu'il m'a fait subir, etc. Le seul truc, c'est qu'à ce moment-là, elle était très amoureuse, et donc elle a pas pris ma défense, enfin pas assez. Et du coup, j'avais quand même droit à ses pesées tous les matins et tous les soirs. Bon, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et je sais que du coup, ma mère, c'était des compliments, non. C'était des remarques incessantes, en fait, sur mon poids, sur « Ah, Aya, je trouve que t'as pris du poids. Ah, tu devrais faire attention, tu devrais faire plus de sport. Ah, Aya, pourquoi tu te mets pas en short et tout, machin, etc. » Et en fait, ça m'a apporté encore plus de complexe sans qu'elle s'en rende compte. Et encore aujourd'hui, elle me le fait, et sauf que maintenant, je suis capable de lui dire « Oui, bon, j'avais pas besoin de le savoir, quoi. » Mais « Ah, Aya, t'as pris du poids, c'est une remarque, c'est un fait, j'ai pris du poids, je le sais, hein, c'est pas obligé de me le dire, hein, je le sais très bien moi-même. » Mais non, ma famille n'a pas été impactée autour de moi, mes amis non plus. J'ai vraiment souffert toute seule dans mon coin parce que on se cache un peu quand on a ces crises-là, qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde le sache, qu'on va pas bien ni rien, parce que quand on fait ces crises-là, généralement, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont pas bien.
Du coup, comme on a parlé dans la première partie de la création des soucis en fait avec l'alimentation, là on va rentrer sur la deuxième, on va plutôt parler de notre relation avec l'alimentation maintenant. Et on va commencer avec la première question qui est êtes-vous en paix avec la nourriture ou est-ce que ça peut vous provoquer en soi des angoisses ?
Maintenant
actuellement.
Alors non, je suis toujours pas en paix avec, peut-être un jour je le serai, mais c'est pas le cas. Ça m'arrive moins souvent que l'année dernière, mais ça m'arrive encore aujourd'hui. Ça ressemble peut-être à de l'hyperphagie, encore une fois, je ne me diagnostique pas, mais de manger, je n'ai pas faim. Je mange genre des pâtes, pâtes au ketchup, d'ailleurs c'est un très bon plat. Je mange une grosse plâtrée de limite de pâtes au ketchup. Et en fait, pendant que je mange, en tout cas je mange vite, parce que j'ai l'impression que ça va partir, qu'elle va disparaître sous mes yeux. Oui. Et je mange vite, et pendant que je mange vite, enfin pendant que je mange, je me dis, mais en fait... Genre, j'ai pas besoin de manger autant. Mais pour autant, pour moi, c'est hors de question que je jette. Hein, je vais pas gâcher la nourriture, je ne jette pas. Pour autant, du coup, je finis mon gros truc, alors que je sais très bien, au fond de moi, que c'est ce que je fais, c'est pas bien. Et du coup, après, je suis là en big regret. Et je regrette. Alors, c'est après parce que je regrette. Et comme je regrette, je vais prendre un dessert. Parce que le dessert va m'aider à dompter mes regrets. Comment dire qu'à la fin de ce repas, je suis pas bien du tout, je suis en mode « Ah ouais, d'accord, ok. »
Ah, tu regrettes deux fois plus.
C'est ça, mais du coup, non, je suis pas en paix avec moi-même. Hein, genre, en plus, vu que je suis dans les normes de poids, les normes d'IMC, les normes de courbe, les gens, justement, ils peuvent pas comprendre. Si je leur dis que je fais ça, ils vont dire « Arrête, t'en as pas besoin, je sais pas quoi. » Vu que je suis dans la norme, parce que extérieurement, je suis dans la norme. Donc, ils vont encore moins comprendre. Donc voilà, dans la, pas la paix. Malheureusement, c'est plus la guerre, là, je dirais.
Moi, en vrai... j'ai commencé à m'accepter comme je suis au niveau de mon corps depuis que je commence à fréquenter des garçons.
Waouh.
Faut savoir que genre ça m'intéressait pas du tout avant les garçons au lycée. J'avais mes potes, c'était très bien. J'avais de l'alcool, des clopes et voilà quoi. Amour et d'eau fraîche non, alors que quand tu peux avoir une bière fraîche c'est oui. Le seul truc c'est que j'ai commencé à m'y intéresser, et sauf que quand tu rentres pas dans les normes des corps de la société actuelle, les corps instagrammables, pinterestables et tumblerables, tout ce que vous voulez, c'est compliqué. Quand on te remarque, tu es vraiment l'ami grosse et drôle.
Ouais.
Bon, au moins, t'as ça pour toi, j'ai envie de te dire.
Ça va, t'es drôle.
Ouais, déjà,
c'est déjà pas mal, attends.
C'est sympa. Du coup, en vrai, par contre, ça a développé vachement mon humour noir et l'autodérision. Alors ça, par contre, je suis pépite et fan de cet humour-là. Par contre, ouais, du coup, ça a été un peu compliqué. Jusqu'à ce que je commence à avoir vraiment une vie sexuelle épanouie, ça a été hyper compliqué au niveau de rapport avec mon corps. Ouais. Parce que j'avais l'impression de ne pas plaire, en fait. Et je me plaisais pas, donc je pouvais pas croire que je plaisais à quelqu'un d'autre. Ouais. Aujourd'hui, je me dis pas que je me plais, mais du moins, je commence à m'accepter comme je suis. Évidemment, j'ai envie de changer aussi quand même pour me sentir bien dans ma peau. Et même au niveau du sport, moi, j'étais quelqu'un de très sportive avant. Et j'ai compensé tout ça par la nourriture, donc il va falloir que je m'y remette. Mais c'est vrai que mon rapport à la nourriture aujourd'hui, il est plus apaisé. Mais je dirais pas qu'il est toujours... voilà, c'est Corée du Sud, Corée du Nord, quoi.
C'est reine, reine de...
Exactement. On fait copain-copine et après on se jette des œufs dessus, quoi. Ouais, non, c'est pas... Je fais encore beaucoup de crises d'hyperphagie, sauf que maintenant je compense avec des crises de... Genre, je sais pas. J'ai pas été... Faut que je retourne voir la psy. Je sais pas du tout, mais bref, des crises de sans manger. C'est plus, je fais plus de la boulimie qu'autre chose, si on prend des termes génériques, hein, sans diagnostication. Mmh. Diagnostic tout court. mais c'est toujours conflictuel, mais on s'en sort aussi par l'acceptation de soi ou du fait que je me sente mieux. C'est vrai que j'ai des rapports plus sains à la nourriture, mais ouais, soit je mange pas. Ça... Mais juste maintenant, je m'autorise à manger quand j'ai faim, quoi.
Je pense que, ouais, globalement, ça va. Même si ces derniers temps, c'est vrai que je pense beaucoup à mon poids, vu qu'avant, ben, j'étais aussi... pas dire pas maigre mais genre aussi mince que genre Sarah et
laissez mon corps désolée
mais non mais je voulais expliquer qu'en gros genre j'étais fine aussi à une période genre du coup au lycée et en fait quand je suis partie la première inquiétude de ma mère c'était surtout que je prenne du poids parce que c'est souvent ce qui se passe genre quand on quitte en fait on va dire la Martinique et qu'on va en France on a enfin les gens ont souvent cette vision qu'en France, on va plutôt avoir une facilité à manger gras, à pas voir les quantités. Et du coup, on va prendre plus facilement du poids quand on va quitter le foyer familial. Et en fait, les deux premières années, bah, j'en ai pas vraiment pris, peut-être un petit peu, mais genre, ça reste dans la norme. Et bah, c'est étrange, mais depuis que je suis avec mon copain actuel, genre, j'en ai pris beaucoup. Et il y avait un moment où genre, ça m'allait, j'avais un poids, on va dire, idéal. Et je suis arrivée à un stade où en fait... ben ça me met mal à l'aise pas pour moi mais pour lui parce que je sais que en soi il a des préférences on va dire physiques et j'ai peur qu'en fait un jour il se réveille et que la personne qui est à côté de lui ben ne correspond plus à ce qu'il a envie et en fait j'ai peur en fait de le perdre sous prétexte que genre je mange trop donc j'avoue que je suis encore dans un espace d'entre-deux où je le fais pour moi mais je le fais surtout pour lui pour c'est triste à dire mais pour le garder parce que bah j'ai peur en fait de pas être assez bien genre pour lui genre physiquement
mais il t'a rassuré un peu sur ça quand même vous en avez déjà parlé
il m'a clairement dit qu'il y a aucun souci dessus et que genre pas bah, que si j'ai envie de faire du sport j'ai le droit de faire du sport et tout et qu'au contraire elle m'encourage dessus mais qu'en soit j'ai pas à me forcer genre à penser ça tu vois
ouais en gros il s'en fiche de ton corps quoi lui ce qu'il veut c'est toi c'est pas ton corps
tu vois voilà
ouais,
c'est okay. ça
ouais mais t'as toujours cette angoisse derrière
oui il y a toujours cette angoisse derrière tu vois
ok
donc après c'est bah comme beaucoup de maladies genre enfin je sais pas une maladie du coup ce que j'ai mais genre comme beaucoup de choses c'est mental et j'essaye genre de faire du sport pourtant je suis pas une grande sportive mais j'essaye genre de me forcer genre à trouver des recettes plus équilibrées on va dire à réduire aussi au niveau des fast-food, mais ça, on en discutera après, et à genre privilégier la marche plutôt que les transports. Donc, comme ça, en fait, réduire un peu, genre, perdre un peu les calories que j'ai pris en mangeant avec la marche. Du coup, on a évoqué le rapport à notre nourriture maintenant, mais nous, on voudrait savoir quelle place les fast-food, ils ont un peu dans votre vie quotidienne.
Une place horrible. C'est la facilité de fou. En plus, moi, j'ai travaillé au McDo pendant un an, au lycée. Bon, c'est... Eh ben, sachez qu'avec McDo, on prend pas tant de poids que ça. Je mangeais McDo tous les jours, tous les week-ends. C'est le rêve pour certains, c'est l'horreur pour d'autres. En vrai, c'était sympa. J'ai testé des nouvelles recettes. Mais du coup, je connais toutes les ruses pour avoir des McDo moins chers. Mais en vrai, ce qui m'a aidé, c'est arrêter la viande. Ah, oui. Bah, moins de fast-food d'un coup. Ouais. Aller au McDo en étant végétarienne, il n'y a rien. Il y a genre là, il y a les wraps qui sont revenus, mais sinon, il n'y a rien du tout.
Le McMuffin.
Du coup, beaucoup moins de McDo, de BK, de tout, parce qu'en plus, il n'y a pas de BK dans le centre. Mmh. Et en vrai, là, j'ai supprimé Uber Eats. Je suis très fière de moi. Pour vous dire, j'avais quand même un abonnement premium.
Bah, pour ma part, j'ai aussi travaillé au McDo, mais moi pendant 10 jours, parce que ça l'a pas fait après. Bah, c'était cette année en plus, là, en novembre.
Je comprends parfaitement, McDo, c'est trop dur.
Le fait que du coup tu dises ouais, on prend pas tant de poids que ça, je comprends. J'étais en SAT, service à table. Et le premier jour, je pleurais parce que j'avais trop mal au dos, on pouvait pas s'asseoir pendant des heures et tout, donc je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, les fast-food, bah, j'ai la chance. J'habite dans un trou paumé, j'habite pas à Rennes même. C'est relou, hein, parce que le soir je peux pas sortir, donc j'ai raté toutes les soirées.
Je suis pareil.
Voilà, j'ai raté 5 sorties en boîte là depuis janvier, j'ai un peu le seum. Mais l'avantage, c'est que Uber Eats, du coup,
ne passe pas.
Oui. Et je pense, en vrai, tant mieux, parce que si Uber Eats passait, je pense que je commanderais tout le temps. Il y a juste Domino's Pizza qui livre, mais vu que c'est 17 balles minimum pour livraison, je commande
c'est pas.
Pas
15
chez moi.
Non, à Rennes, c'est 10.
Je commande pas souvent. Donc je pense tant mieux parce qu'à mon avis, si Uber Eats passait, je commanderais. Mmh. Dès que j'ai la flemme, je commanderais. Là, quand j'ai la flemme, je me fais des pâtes. Et après, les fast-food, bah, du coup, ça a pas une grosse place parce que j'en mange pas tout le temps. J'en mange peut-être genre une fois par mois, voire moins. Il y a des fois, ma mère, on rentre le soir, elle a la flemme de cuisine, elle nous dit McDo, bah ok, pas de soucis. Donc là, je me fais plaisir. Hein. Je prends un gros menu et tout. Je me fais plaisir. Mais je mange pas, genre. Tout le temps McDo, sauf quand j'y travaillais, ça c'était tous les midis. Et après pareil, j'ai essayé d'arrêter la viande comme toi, sauf qu'en fait dès que je mange très 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 peu de viande de base, genre je mange quasiment pas à part genre du poulet et du steak haché, sinon tout le reste je ne mange rien, les chipots, le porc, le lapin, rien du tout. Et ce qui fait que du coup je pouvais pas trop arrêter non plus le steak haché, j'aime trop ça, c'est vraiment la seule viande que j'adore. Et en plus pour ma santé, si j'arrêtais ça, c'était pas fou. Donc ouais, c'est vrai que ça doit être pratique d'arrêter la viande pour les fast food.
Surtout quand t'arrêtes viande et poisson en fait.
Ouais.
Ah, t'arrêtes viande et poisson. Ça coûte moins cher.
Moi je suis flexitarienne du coup.
Ça coûte pas si moins cher que ça.
Ah ouais,
je te l'assure.
Je confirme.
Ah ouais.
Parce qu'en fait les légumes ils ont pris beaucoup plus de l'inflation que la viande. Oh, bref, petit point économie. Ils ont pris beaucoup plus que. Et c'est surtout beaucoup plus de taf parce que quand tu vas acheter des plats tout prêts par exemple, mais c'est super cher genre.
Les steaks végétaux et tout, c'est...
Bah non, je mange des œufs et des haricots.
Le steak fromage
épinard,
là.
Oh, mon Dieu.
Mais du coup, franchement, les fast-food, ça va. Ils sont pas trop méchants avec moi, on va dire.
Pour finir, est-ce que vous avez rapidement un aliment qui vous a marqué?
Bah, je dirais... ouais, les pommes ou les pâtes. Des fois, je me faisais des gros plats de pâtes. Plein de fromage, plein de parmesan, plein de ketchup, plein de sauce. Je pense que c'est les pâtes, à mon avis. Mm. C'est la solution de facilité, en fait. Donc, voilà.
Aujourd'hui, je peux plus manger de choux quasiment. Je fais un rejet, genre mon corps il veut plus manger de choux. Ça va mieux, mais genre du chou blanc mariné, parce qu'en fait j'adorais le kimchi, si vous connaissez. Et au lycée, j'en achetais beaucoup et j'en faisais un peu moi-même. Et un jour, grosse crise d'hyperphagie, je mange tout ce qu'il y a. Et j'avais du riz vinaigré et du kimchi. Et je me dis trop chouette, je vais manger ça. Enfin d'ailleurs, je me dis rien du tout. Je les vois, je les prends. Et en fait, j'ai tellement mangé de chou que ça a brûlé mon estomac. Parce que le kimchi, c'est très très acide. Et en fait, ça a plus d'autres aliments. J'ai dû boire genre du jus d'agrumes ou un truc comme ça, ou je sais pas. Enfin, j'ai mangé beaucoup trop de trucs acides. Et je me suis retrouvée sous Gaviscon. Pour ceux qui connaissent,
c'est
des plâtres pour estomac, en gros. Vous mangez ça, c'est une espèce de petite gelée. C'est à la menthe, c'est dégueulasse.
Sache que j'aime bien. Enfin, le Gaviscon, j'aime bien. Ah,
tout ce que je mangeais avec goût de menthe, genre comme si j'avais gardé un chewing-gum en bouche. Et ça vient plâtrer votre. Pas votre estomac. Enfin, ça le plâtre pas, mais ça bouche les petits trous de l'estomac créés par l'acidité, sachant que dans l'estomac, il y a énormément d'acidité pour détruire les aliments. Pour les digérer. Du coup, j'avais des grosses crampes et tout. Et en fait, du coup, j'ai un très mauvais souvenir du chou à cause du Gaviscon, que j'associe plus le kimchi d'ailleurs que le chou, à la menthe, à mes repas. Donc c'est horrible. Je ne mange plus de kimchi du tout. Je ne peux plus, j'en prends un et je vomis en fait. Ça me fait un total rejet de cette chose de l'enfer. Beaucoup trop acide.
Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on clôture l'émission?
Non, à part que c'était super sympa, j'ai bien aimé.
Bah moi, si jamais c'est pas coupé, j'aimerais juste dire aux gens qui écoutent que si jamais ils sont pas à l'aise avec leur corps ou avec ce qu'ils mangent, franchement, je sais que c'est facile à dire, mais on s'en fout. En fait, vous vivez pour vous, pas pour les autres. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour que les gens puissent peut-être s'identifier à moi, entre guillemets, c'est peut-être un peu arrogant, mais qui s'identifient à ce que je dis. Et si jamais ils sont mal avec ça, franchement, on n'a qu'une vie. Et quelle vie, dis donc, nous les jeunes en ce moment. Donc, faut pas non plus détruire sa vie parce qu'on mange trop ou parce qu'on mange pas assez. Mangez comme vous voulez, faites du sport si vous voulez et kiffez votre vie.
Comme toute bonne chose a une fin, notre émission aussi, et oui, malheureusement. Merci d'avoir écouté On Papote. Nous espérons que l'émission vous a plu. Un grand merci à Lou et à Elia d'avoir accepté notre invitation au studio.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode où nous allons parler de solitude et de dépression et également de santé mentale. Un sujet un peu plus sensible, mais qui, nous l'espérons, saura vous attirer quand même. N'oubliez pas, si vous souhaitez participer à l'émission ou voir les coulisses, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @onpapote.podcast.
Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient réécouter l'émission ou écouter les épisodes précédents, On Papote est disponible sur les plateformes de streaming. Alors n'hésitez pas. Merci pour tout et à bientôt.
Syllabe.
La radio sauvage.